France Bleu Touraine.
Bonsoir Michel Lambarec.
Bonsoir.
On plaisantait quand vous êtes arrivé tout à l'heure, on disait bah on se voit une fois par an. L'année dernière vous étiez venu pour présenter votre livre. Donc on est dans en fait une forme de à mi-chemin entre le documentaire un peu romancé quand même hein, avec ouais. Jim Morrison, et là maintenant c'est Bob Dylan et Le Rôdeur de minuit qui vient de sortir. Vous donnez rendez-vous d'ailleurs à celles et ceux qui vous connaissent, aux curieux aussi qui s'intéressent à la carrière de Bob Dylan et à votre travail le 7 avril prochain, samedi 7 avril prochain, à la boîte à livres. On redonnera les horaires tout à l'heure. Pourquoi Bob Dylan? Parce que dans le panorama du rock'n'roll, bon, on sait que vous avez cette culture rock, Michel. Vous auriez pu choisir d'autres idoles.
Ah oui, en plus j'ai des copains qui m'ont suggéré de machin et truc, truc et machin, etc., etc. Non, après avoir écrit Jim Morrison et le Diable boiteux, qui relatait l'amitié tumultueuse entre Jim Morrison et Gene Vincent, j'ai voulu écrire un roman qui soit basé sur une amitié constructive. Parce que le précédent, c'était quand même deux types qui passaient les deux dernières années de leur vie à se détruire. Physiquement, ils ont passé leur temps à se détruire, quoi. L'alcool, la dope. Alors que là, on est dans une amitié qui dure quasiment sur 40 ans.
Et qui va démarrer pratiquement au démarrage de la carrière de Bob Dylan. On va citer l'autre protagoniste qui n'est autre que le chanteur Johnny Cash.
Voilà. Dès le premier album, le premier album de Bob Dylan tombe dans l'oreille de Johnny Cash, qui sent que ce genou a du talent.
Il l'entend comment maison de disques.
Oui, parce qu'ils ont
la même maison de disques.
Ils ont la même maison de disques. Ils sont tous les deux chez Columbia. Et donc Johnny Cash qui tourne avec un, enfin dans sa loge, il y a toujours un électrophone portatif. Et il a récupéré le premier album de Dylan. Il l'écoute. Il trouve que il y a quelques chansons qui valent vraiment vraiment la peine, que ce gamin doit avoir du talent. Et un jour, il apprend que Columbia, mécontent des ventes de ce premier disque, qui s'est très peu vendu, puisque un an après, ou 8 mois après, on en est à 4000 exemplaires pour les États-Unis, c'est vraiment rien. Cash met tout son poids dans la balance et dit, si vous le virez, je m'en vais aussi, je reprends ces chansons, et moi je vais en faire des tubes. De là, Dylan apprend que Cash a mis tout son poids dans la balance. Ils se rencontrent, ils discutent et ils vont commencer à s'écrire parce qu'ils sont toujours sur la route. Donc ils s'écrivent. Cette correspondance, on sait qu'elle existe, mais personne, on ne sait pas si elle a été détruite.
On ne sait pas où elle est.
On ne sait absolument pas où elle est. Donc j'ai parsemé le roman de lettres échangées entre les deux protagonistes, mais ces lettres sont évidemment totalement apocryphes. Elles sont juste basées sur l'évolution de leur carrière, de leur vie et des événements qui secouent les États-Unis entre, on va dire, 1961 et 1971-1972.
Alors, des événements, il n'en manque pas. C'est une période particulièrement troublée. Hein. On le rappelle, on est en pleine guerre du Vietnam. C'est l'assassinat aussi de Kennedy en 1963. En 1968, c'est la disparition du pasteur Martin Luther King. C'est dans ce contexte-là que se déroule aussi l'histoire que vous racontez.
Mais pas seulement. Il y a ces trois événements dont vous parlez, mais il y a aussi quelque chose qui pose question à Dylan, c'est qu'on le rend, malgré lui, porte-parole de la jeunesse et icône de la lutte pour les droits civiques. C'est vrai que, dans un premier temps, il s'y prête, mais très rapidement découvre qu'il n'est pas fait pour ça. Un jour où on doit lui remettre un diplôme, en particulier pour son travail pour la défense des droits civiques, il découvre qu'il est incapable de parler en public. Quand il s'exprime, c'est une catastrophe. Quant à être porte-parole de la jeunesse, très rapidement, il comprend que le costume est beaucoup trop grand pour lui et que bon, une fois qu'il a chanté ses textes ne lui appartiennent plus, les gens en font ce qu'ils veulent, mais il veut surtout pas devenir...
Endosser ce voilà. costume-là.
Donc, ouais. Il parle aussi de ça, beaucoup de ça avec Johnny Cash, qui lui est une énorme vedette, mais qui n'est le porte-parole de rien, sauf peut-être de la cause indienne. Mais lui, Cash, comme porte-parole de la cause indienne, se contente d'enregistrer un disque entièrement consacré à la cause indienne.
Ils vont se suivre mutuellement tout au long de leur carrière respective.
Ouais, ils ont tous les deux une culture musicale, ils connaissent tous les deux la musique populaire américaine.
Ils ont des références communes.
Voilà,
hein,
tous les deux,
le même creuset.
Voilà,
hein.
Tous les deux connaissent des chansons qui remontent à l'arrivée des immigrants. Ils sont passionnés par l'évolution de cette culture.
Robert Johnson, le guitariste, par exemple.
Et pas seulement, même avant des vieilles, beaucoup de chansons religieuses, par exemple,
ouais.
des chants d'église, quoi, uh-huh. blancs ou noirs. Ils connaissent tous les deux. Connaissent ce répertoire. Donc, il y en a toujours un pour dire à l'autre, tiens, au fait, tu te souviens de ça, de machin qui chantait ça à telle époque, etc., etc. Donc, ils ont cette passion et en plus, ils ont une espèce de camaraderie pour narguer la notoriété. Parce que Cash, lui, nargue la notoriété par ses frasques. Hein, il se fait ramasser ivre-mort avec des pilules de speed, etc. Quant à Dylan, lui, il nargue la notoriété en disparaissant. Hein, quand après son accident de moto, personne ne sait ce qu'il devient. Il disparaît pendant, je ne sais plus combien, 18 mois, 2 ans. Ou alors, en ne s'exprimant pas, Dylan ne donne pas d'interview. Il n'explique rien. Il produit des disques, enfin, il enregistre des disques. Mais il explique rien. Donc, tous les deux, à leur façon, ont cette convergence des types pas faciles pour le showbiz, pas faciles pour les médias, quoi.
Michel Ambarek, vous avez plongé, bien sûr, dans cette amitié, dans la musique de Dylan. La voici d'ailleurs. On se retrouve juste après Bob Dylan, tout de suite sur France Bleu Touraine. Et on se donne rendez-vous aussi, mais on va en reparler à la boîte à livres de cet avril. Take a size, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you. I want you. Yes, I want you so bad. They've gone down, true love, they've been without it. But all their daughters put me down, cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows that she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't that cute to him, was I? But I did it because you lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you, I want you.
want you. Yes, I want you. So bad. Honey, I want you.
Bob Dylan sur France Bleu Touraine, I want you, la chanson. Et puis, le livre de Michel Ambarek, Bob Dylan et le rôdeur de minuit. Il vient de paraître, Michel Ambarek, auteur. Alors, j'allais dire Michel Tourangeau, parce que vous êtes installé dans la région, mais vous avez beaucoup voyagé, vous avez beaucoup baigné dans cette culture rock, et ce, depuis votre tendre jeunesse, on va dire. Alors, il y a une partie avérée, factuelle, dans ce livre. Et puis, il y a une partie romancée, complètement inventée. Alors, comment est-ce qu'on navigue et comment on se repère? En fait, il faut se laisser aller.
Alors, d'entrée...
En tant que lecteur, je veux dire.
D'entrée, comme pour le roman précédent, j'ai pris grand soin à ne relire aucune biographie. Parce qu'à partir du moment où on commence à prendre des notes biographiques, moi, je me sens prisonnier. Donc, il y a, dans l'amitié entre Bob Dylan et Johnny Cash, 4 ou 5 dates certaines. C'est-à-dire le fait, en 61-62, que Johnny Cash défende Dylan chez Columbia.
Ça, c'est avéré.
C'est avéré. Ils sont ensemble en 65 à Newport. Ils sont ensemble en 69 à Nashville, pour enregistrer Nashville Skyline. Et ils sont ensemble début 70, je crois, lors d'un show télévisé, le Johnny Cash Show.
Mais alors, vous avez travaillé comment, justement? Il fallait avoir quand même ces ancrages.
Oui, je pars de date.
Ouais.
Et entre-temps, il faut bien boucher les trous.
Donc là, c'est votre imagination qui part, qui prend le pouvoir.
Entre-temps, il leur arrive des tas d'aventures, ouais, chacun de leur côté ou ensemble, qui sont pure fiction.
On est dans un road roman, on va dire, hein.
Ouais.
Parce qu'on se balade beaucoup.
On se balade beaucoup. Je fais même venir Bob Dylan en Touraine à moto dans les années 60, fin des années 70, à une époque où, par exemple, ça, j'en suis certain, puisque je veux pas dire que j'y étais, mais si j'y étais, on est même en 80. À une époque, dans l'été 80 ou 81, je me souviens plus très bien, Dylan a loué tout un hôtel à Paris pour y passer quelques jours en compagnie d'une violoniste. Et bon, ça c'est avéré. Moi, je l'ai comme journaliste, je l'ai appris, j'ai vu les photos, etc., etc. Sauf que j'ai relaté brièvement ce moment dans le roman. En même temps que Dylan, j'ai fait partir Dylan de Paris vers la Touraine pour y rencontrer un peintre de ses amis qu'il avait connu à New York. Là aussi, on part d'un début de chapitre qui est réel. Il a loué tout un hôtel à Paris pour être tranquille avec cette violoniste. C'est sa vie privée. Et ensuite, je le fais partir en Touraine, rencontrer un peintre qu'il a connu à New York. Là, on est dans la fiction complète.
Le but derrière tout ça, pour comprendre aussi votre démarche, c'était vraiment aussi de se plonger au cœur des racines de la pop culture américaine, et puis de vivre aussi cette époque-là.
Voilà, c'est raconter l'histoire américaine au travers de ces deux hommes et au travers du vieux DJ qui revient régulièrement, et aussi d'expliquer pourquoi. Alors, il y a plusieurs choses. D'expliquer pourquoi le Nobel.
Ouais.
Voilà. Et on peut pas comprendre le Nobel attribué à Dylan si on lit pas les attendus du Nobel. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais par exemple, bon, je vis en Touraine depuis longtemps. Il y a à Tours une espèce de circuit automobile éphémère.
Oui, le NASCAR.
Le NASCAR. Eh bien, les Tourangeaux ignorent peut-être tout du NASCAR.
Il y a un rapport avec Dylan.
Oui, il y a un rapport avec Dylan, oui, évidemment. Ouais.
Alors, vous allez tout nous dire.
Bon, dans ce roman, j'ai imaginé que Johnny Cash et Bob Dylan faisaient une expédition dans les montagnes du sud des États-Unis à la rencontre des moonshiners. Les moonshiners, ce sont les trafiquants d'alcool clandestin, les fabricants. Mmh, mmh. Les fabricants. Pour transporter cet alcool clandestin, il fallait des hommes qui sachent bien conduire et vite. On les appelait, c'était eux les bootleggers, parce qu'ils planquaient les bouteilles d'alcool dans leurs bottes, entre autres.
Ah, c'est pour ça,
bootlegger. Oui. Voilà. Mmh. Et les pilotes automobiles qui transportaient l'alcool clandestin, petit à petit, le dimanche après la messe, se sont mis à faire la course entre eux, dans les rues des petites villes. Mmh. Et de là est née une compétition américaine qui s'appelle la NASCAR, qui est aujourd'hui extrêmement populaire dans le sud des États-Unis et dans tous les États-Unis, à la télé, les
courses. Et qui est inspirée de ces rodéos de voitures, finalement.
Et ben voilà. Ah ouais. La NASCAR, aujourd'hui, est l'héritière de la contrebande d'alcool.
La
dans
prohibition.
Le sud des,
la suite.
De la fabrication d'alcool clandestin, la prohibition, je sais pas si ça a à voir. Là, c'était vraiment pour pas payer de taxes.
Ah, c'était vraiment. Ah, d'accord.
Voilà.
Michel Ambarek, votre livre, il vient de sortir, il s'appelle Bob Dylan, c'est son titre, Bob Dylan et le rôdeur de minuit. Il est paru aux éditions de l'Archipel. Vous nous donnez rendez-vous à Tours, parce que là, vous tournez un petit peu partout pour présenter ce nouveau livre. Vous nous donnez rendez-vous à la boîte à livres le 7 avril, entre 15h et 18h, le 7 avril. Et puis, je tiens à signaler aussi que votre premier polar, vous avez écrit...
85.
C'était en 85. Votre premier polar sur la ligne blanche vient d'être réédité en poche. Ce sera l'occasion peut-être aussi d'en parler avec vous le 7 avril prochain, entre 15h et 18h à la boîte à livres. En tout cas, merci d'être passé par nos studios.
Et merci de cette invitation.
Au revoir.